Nous devons commencer à réfléchir à ce à quoi ressemblera le socialisme. Je pense qu'historiquement, la gauche anticapitaliste a tendance à construire des mouvements pour contester le capitalisme et à le critiquer intellectuellement. Ces impulsions sont utiles, mais leur utilité est limitée, car nous sommes parfois tellement occupés à critiquer le capitalisme et le système existant que nous oublions de proposer une alternative. Nous avons négligé de développer des modèles de gouvernance et de planification socialiste, et je pense que nous en pâtissons. Il est facile de comprendre pourquoi ce sentiment prévaut, car il est beaucoup plus facile d'être anticapitaliste que socialiste. J'ai rencontré des gens qui, en discutant avec eux, parviennent très facilement à reconnaître les défauts du système capitaliste, car celui-ci présente de nombreux défauts. Il comporte de nombreuses contradictions internes. Il contient de nombreux éléments qui contribuent à radicaliser les gens, simplement par leur expérience d'interaction avec lui. C'est une façon élégante de décrire ce qui vous arrive en vivant aux États-Unis. Interagir avec le système de santé, trouver un emploi et interagir avec le système salarial. Ces choses aliènent naturellement les gens. Elles les radicalisent naturellement. Mais quand vient le temps de présenter une alternative, vous constaterez qu'ils sont aussi blasés du socialisme que du capitalisme, voire plus. En fait, si l'on regarde les sondages, le capitalisme n'est pas très populaire auprès des jeunes, mais le socialisme est en déclin ces dernières années. On pourrait penser qu'à mesure que le capitalisme perd de sa popularité, le socialisme gagnera en popularité. Et c'est déjà arrivé dans une certaine mesure, mais en même temps, les sondages semblent indiquer que les gens sont tout simplement blasés en général. Imaginez, par exemple, que vous ayez vécu la crise financière de 2008. Je ne vais pas devoir l'imaginer. La plupart d'entre vous l'ont probablement fait. C'est un moment profondément radicalisant. Si vous êtes attentif et réfléchissez sérieusement aux conséquences de ce krach financier, vous constaterez que la spéculation financière plombe l'économie. Aucune de ces personnes n'a été emprisonnée. Des millions de personnes ont été expulsées de chez elles. Et c'est tout. C'est la fin de l'histoire. Et je pense que pour beaucoup, cela a probablement entraîné une désillusion. Mais cette désillusion a en fait ancré dans leur esprit l'inéluctabilité du système. Parce que, d'accord, s'ils peuvent faire une telle erreur, s'ils peuvent arnaquer autant de gens à cette échelle, et que rien ne change, alors waouh, je suppose que c'est vraiment inévitable. Je suppose que c'est la seule issue possible. Parce que si la situation peut empirer à ce point et que personne ne fait rien et que rien ne change, alors waouh, je suppose que c'est vraiment ça. Et c'est le danger de compter sur la crise pour radicaliser les gens, car elle ne fera pas forcément l'inverse. Cela peut leur griller le cerveau et anéantir toute possibilité de politique transformatrice. Sans programme positif. Si l'on ne peut pas articuler et défendre la viabilité d'un système alternatif sur le moment, il faut pouvoir dire que ceci est mauvais, puis que l'autre solution possible est meilleure. Et pour l'instant, je pense que nous réussissons très bien à dire que cela est mauvais. Je ne pense pas que nous soyons suffisamment efficaces pour dire, voici l'alternative vers laquelle nous pourrions nous diriger. Je pense que le principal obstacle que la gauche doit surmonter est de défendre et de démontrer la faisabilité d'un modèle socialiste. Je comprends que mes propos sont tout à fait critiquables. On dirait que je dis que ce qu'il faut, c'est élaborer un plan de société parfait, puis convaincre tout le monde qu'il fonctionnera. Une fois cela fait, ils utiliseront leur raisonnement et arriveront à la conclusion logique que nous devons le faire, et nous gagnerons par la seule logique. C'était une sorte de vision utopique. Marx critique d'ailleurs cela dans le Manifeste communiste. Dans ses écrits et ceux de ses pairs, il critique cette attitude utopique qui consiste à inventer l'idée et à la mettre en pratique. Il pensait plutôt que, grâce à la lutte contre le capitalisme, les organes de la société socialiste émergeraient naturellement. Et, dans l'ensemble, je pense que c'est une vision sage. Je ne la conteste pas. Ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas abuser de cette pensée matérialiste. Il ne faut pas s'en servir comme d'une échappatoire. Quel est mon plan? Je ne peux pas te le dire, mon pote. Les conditions matérielles régleront tout. Je ne pense pas que ce soit judicieux, mais je comprends pourquoi les gens ont tendance à adopter ce point de vue, car cela permet de se tirer d'affaire. Donc, pour être clair, je crois qu'on ne pourra pas simplement imaginer le mode d'emploi du socialisme a priori. Évidemment, une grande partie de la société future, comme celle qui émergera, sera déterminée par les conditions historiques et ne sera pas le résultat d'un plan directeur. Ce que je veux dire, c'est simplement que, si nous travaillons à renverser le capitalisme, nous devons aussi avoir une vision positive. Il est donc très facile de dresser un tableau négatif et d'énumérer tous les maux et les excès du capitalisme, comme je l'ai dit, mais au final, cela ne fait que lasser les gens. Si vous discutez suffisamment avec les gens, et si vous maîtrisez suffisamment la rhétorique, vous les amènerez souvent à un point où, comme je l'ai dit, ils seront prêts à reconnaître les lacunes du système. Et puis, bien sûr, ils vous demanderont, bon, et maintenant, quelle est l'alternative? Il est important de pouvoir esquisser une vision de l'avenir lorsque les gens vous demandent quelle est la prochaine étape. Notre tâche essentielle consiste désormais à formuler une vision réaliste de cette alternative. Ce que je veux dire, c'est que nous devons développer des cadres qui renforcent la plausibilité du socialisme dans l'esprit du public. Il est très facile de se cacher derrière le système existant et de critiquer ce qui existe. Mais si vous voulez créer un monde nouveau, vous devez aussi le défendre. Il faut le positif et le négatif. Si vous n'avez que l'influence négative, vous attirerez certains, mais vous ne ferez que les épuiser, les rendre cyniques et les inciter à se méfier du statu quo, ce qui n'a qu'une valeur limitée. Alors, à ce stade, vous vous dites probablement, « Ok, Harper, je comprends. » Nous devons réfléchir à des alternatives concrètes pour défendre le monde que nous voulons créer plutôt que de simplement critiquer celui que nous voulons détruire. Comment faire? À quoi cela ressemble-t-il? Et pour être honnête, je ne sais pas. Mais je pense qu'il est important d'engager le débat sur ce sujet. Je pense qu'il est important de lancer le débat, car c'est, à mon avis, notre principal obstacle stratégique à la défense du socialisme. Encore une fois, si vous discutez avec des gens ordinaires, que vous diront-ils? Ils vous diront que le socialisme est une bonne idée en théorie, mais qu'il ne fonctionne pas en pratique. Je pense que c'est le sentiment dominant que les gens ont envers le socialisme et que tant que cela ne changera pas, nous ne progresserons pas. Par exemple, lorsque je dis qu'il est nécessaire de définir à quoi ressemblera le socialisme, on pourrait citer les coopératives de travailleurs. Ce sont des structures qui existent déjà. Elles fonctionnent déjà. Ce sont essentiellement des entreprises dont les propriétaires sont des travailleurs. Elles sont en quelque sorte contrôlées démocratiquement par leurs employés. Elles sont organisées selon des principes plus socialistes. Évidemment, ces coopératives de travailleurs ne sont pas parfaites, mais je pense qu'elles offrent un point de départ pour défendre la faisabilité conceptuelle du socialisme. Si vous regardez autour de vous, vous verrez que les germes de ce nouveau monde sont présents partout autour de nous. Notre rôle est de les mettre en lumière, et pas seulement ce qui se produit déjà, mais aussi des modèles théoriques qui devront être développés. Bref, c'est une vidéo très décousue. J'espère que vous l'avez apprécié. Si vous appréciez ce genre de conversation et que vous ne souhaitez pas rester un simple consommateur de contenu de l'autre côté de l'écran, mais que vous souhaitez discuter avec moi et avec des milliers d'autres militants de gauche intéressés par ce sujet, j'ai créé ma propre plateforme. Elle s'appelle Vanguard. Son objectif est de vous mettre en contact avec des organisations locales et de vous donner l'occasion d'échanger avec des personnes partageant les mêmes idées du monde entier, afin que vous puissiez vous attaquer à ces questions et contribuer concrètement à votre communauté. Soyons réalistes, consommer du contenu sur Internet n'a pas vraiment d'importance. Je souhaite donc vous aider à quitter Internet et à aller dans la rue, pour ainsi dire, et à commencer à agir concrètement. Si cela vous intéresse, je laisserai un lien dans la description. Vous pouvez également rejoindre mon groupe de lecture privé si vous le souhaitez. La meilleure façon de comprendre la théorie de gauche, c'est de la lire et d'en discuter avec d'autres personnes dans un cadre communautaire plutôt que de simplement feuilleter ses livres seuls. Et c'est le moment idéal pour s'y mettre, car nous sommes en train de sélectionner le livre que nous lirons pour le deuxième trimestre 2025. Si ça vous intéresse, c'est aussi chez Vanguard. Alors, oui? Rejoignez Vanguard, mec. C'est cool, promis. Et aussi, lisez Le réalisme capitaliste de Mark Fisher. Un monde meilleur est possible. Au revoir.